Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 pour un nouvel épisode de Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman Dans la forêt de Gene Hegland, paru en 1996 aux États-Unis et en 2017 dans la traduction française de Josette Chiche-Portiche aux éditions Gallmaster. Gene Hegland naît en 1959 et grandit dans une petite ville de l'État de Washington aux États-Unis. Ses deux parents étant profs de lettres et libraires, elle est entourée de livres dès son enfance et après une période de petits boulots divers, elle en a fait à son tour son métier. Elle enseigne d'abord dans une fac d'anglais dans le nord de la Californie où elle donne des cours de lettres, puis aussi des cours de creative writing et anime des ateliers d'écriture dans différents cadres. À l'âge de 25 ans, elle réduit ce travail à un mi-temps pour pouvoir se consacrer plus à l'écriture. En 1991, elle publie son premier livre, après avoir été rejetée par une cinquantaine de maisons d'édition, comme quoi ça vaut le coup de s'acharner. The Life Within, Celebration of a Pregnancy est un essai sur le thème de la grossesse dans lequel elle croise sa propre expérience, des données scientifiques et diverses recherches sur les croyances et coutumes de différentes cultures sur le sujet. Par la suite, elle publie trois romans, dont un seul a été traduit en français, et sur son site on trouve également quelques courts essais. Gene Hegland intervient dans de nombreuses conférences et rencontres sur l'écriture, à l'étranger et aux États-Unis. Retraitée, elle vit aujourd'hui sur un terrain de plus de 20 hectares au cœur des forêts du nord de la Californie et partage son temps entre l'apiculture et l'écriture. Son premier roman, dont on va vous parler ici, est publié en 1996 sous le titre « Into the Forest », d'abord dans une petite maison d'édition féministe, puis très vite il attire l'attention de grandes maisons d'édition qui achètent les droits pour une somme incroyable. Le roman connaît un succès énorme, il est traduit dans de nombreuses langues, il est adapté pour le cinéma en 2015 avec Elliot, anciennement Ellen Page, et Evan Rachel Wood. Je crois que le film n'a jamais été à l'affiche en France, il est disponible dans différents services de streaming et en DVD. Il faudra tout de même attendre 2017 pour que le roman soit traduit en français sous le titre « Dans la forêt ». En 2019 paraît également en français une adaptation en BD.
Dans la forêt, c'est le journal intime de Nell, une jeune femme qui vit seule avec sa sœur alors que la civilisation états-unienne est en train de s'effondrer. Elles sont maintenant orphelines, dans la maison où elles ont grandi au milieu de la forêt californienne, sans contact avec le reste du monde, puisqu'il n'y a plus ni téléphone, ni électricité, ni internet, ni carburant. Elles vivent sur leurs réserves et attendent que tout revienne à la normale pour reprendre leur vie. Eva, qui est danseuse, veut rentrer dans le ballet de San Francisco et Nell veut entrer à Harvard. Elles continuent de se former pour pouvoir réaliser leurs rêves alors même que la possibilité d'un retour à la normale semble de moins en moins possible. Mais c'est compliqué aussi de danser sans musique et d'étudier sans internet, de se nourrir sans les supermarchés, de se soigner sans pharmacie ni médecin, de vivre sans contact avec d'autres humains ni nouvelles de l'extérieur. Le journal intime de Nell est aussi parsemé de ses rêves, de ses cauchemars et de ses tribulations intérieures, mais elle décrit aussi précisément ce qu'elle ressent physiquement, les couleurs, les lumières, les odeurs, les goûts, les touchés. Et le texte offre donc de très belles descriptions de la forêt, à la fois visuelle et olfactive, où transmet par exemple l'effet puissant que peut provoquer un chocolat qui fond dans la bouche après un an sans en avoir goûté.
Nous avons plus qu'il n'en faut pour tenir. Mais malgré tout, je dois lutter contre mon envie de m'accrocher à tout ce que nous possédons encore, comme si gâcher une autre goutte ou un autre petit morceau risquait de nous envoyer à la dérive pour de bon. Quand je pense à la façon dont nous vivions, à la désinvolture avec laquelle nous usions les choses, je suis à la fois atterrée et pleine de nostalgie. Je me souviens d'avoir vidé des corbeilles à papier qui auraient tout d'un trésor aujourd'hui. Des corbeilles remplies des cylindres en carton, des rouleaux de papier toilette, de vieux Kleenex, de crayons cassés, de trombones tordus, de feuilles de cahier froissées et de sacs en plastique vides. Je me souviens de m'être débarrassée d'habits déchirés, tachés ou qui n'étaient plus à la mode. Je me souviens d'avoir jeté de la nourriture, d'avoir raclé des morceaux de nourriture de nos assiettes dans le bac à compost, simplement parce qu'elle était demeurée intacte sur l'une de nos assiettes pendant toute la durée d'un repas. Comme je regrette ces corbeilles à papier pleines à ras-bord, ces reliefs de plats. Je rêve d'enfourner des sachets entiers de raisins secs, de brûler 12 bougies à la fois. Je rêve de me laisser aller, d'oublier, de ne me préoccuper de rien. Je veux vivre avec abandon, avec la grâce insouciante du consommateur au lieu de m'accrocher comme une vieille paysanne qui se tracasse pour des miettes. Dans l'encyclopédie, l'autre jour, j'ai lu « Amnésie ». Perte de la mémoire provoquée par une lésion cérébrale, un choc, la fatigue ou une maladie. Lorsque l'amnésie s'installe pendant une durée prolongée, l'amnésique commence parfois une nouvelle vie sans rapport aucun avec son état précédent. On parle alors de fugue dissociative. J'ai relevé la tête de la page, j'ai regardé par la fenêtre les poules qui grattaient la cour vide, et j'ai pensé « Voilà, c'est notre fugue dissociative, le temps perdu entre les deux moitiés de nos vraies vies ». L'hiver dernier, quand il y a eu les premières coupures d'électricité, elles étaient si exceptionnelles et si brèves que nous n'y avons pas vraiment prêté attention. « Ils doivent sans doute réparer les lignes », disions-nous, ou « Un arbre est sûrement tombé à cause de la pluie, ils vont bientôt remettre le courant ». Et effectivement, les lumières ne tardaient pas à clignoter, le lave-linge à reprendre son ronron et ses trépidations dans la buanderie, l'aspirateur à repartir en vrombissant. Et une seconde plus tard, nous considérions à nouveau l'électricité comme tout à fait normale. La forêt raconte une fin du monde peu spectaculaire. Ça n'arrive pas d'un coup, ça commence avec des petites choses qui s'immiscent dans le quotidien et auxquelles on s'habitue avec le temps. Des coupures d'électricité de plus en plus fréquentes, certains biens ou services qui ne sont pas disponibles d'abord de temps en temps, ensuite plus régulièrement. Les grandes crises sont toujours loin, pas chez nous, donc même si on sait que cela existe, ce n'est pas présent dans notre petit monde personnel. Et puis, un jour, le courant ne revient plus, il n'y a plus ni journal ni radio qui pourrait expliquer ce qui se passe. D'ailleurs, on n'apprend pas grand-chose sur les causes de l'effondrement, et le suspense de l'histoire n'est d'ailleurs pas construit autour de ces causes, tout comme Nell et Eva n'en savent que des bouts et des rumeurs.
Une fois que les quotidiens ont cessé de paraître tous les matins, et que les informations à la radio sont devenues de plus en plus rares, les quelques nouvelles qu'on arrivait à avoir étaient si fragmentaires et si contradictoires qu'elles ne nous disaient pratiquement rien sur ce qui se passait vraiment. Bien sûr, une guerre sévissait. Nous avions déménagé la radio de notre mère de son atelier à la cuisine, et avant que les piles meurent, au printemps dernier, nous la cajolions pour qu'elle marmonne la litanie de désastres pendant que nous préparions le dîner. Parfois, les comptes rendus de la guerre faisaient taper du pied et jurer notre père, et parfois, il l'envoyait dans sa chambre à l'étage bien avant que le repas ne fût prêt. Les combats avaient lieu à l'autre bout du monde. Avaient lieu, nous assuraient les politiciens, pour protéger nos libertés, pour défendre notre mode de vie. C'était une guerre qui se déroulait ailleurs, mais elle semblait s'accrocher à nos jours, pénétrer notre conscience comme une lointaine et désagréable fumée. Elle n'affectait pas directement ce que nous mangions, comment nous travaillons et jouons, pourtant, nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Elle ne voulait pas s'en aller. Certaines personnes disaient que c'était cette guerre qui avait provoqué la crise. Mais à mon avis, il y avait d'autres causes aussi. En janvier, je ne sais plus exactement quand, nous avons appris qu'un groupe paramilitaire avait fait sauter le Golden Gate Bridge et, moins d'un mois après, que le marché des devises étrangères s'était effondré. En mars, un séisme a provoqué la fusion du cœur d'un des réacteurs nucléaires de Californie et la crue du Mississippi a été d'une violence inimaginable. Pendant tout l'hiver dernier, les journaux, quand nous arrivions à les avoir, croulaient sous les nouvelles de désastres. Et je me demande si ce n'est pas la convergence de toutes ces catastrophes qui nous a conduits à cette paralysie. Malgré tout, chez la plupart des gens, régnait une étrange impression de gaieté, une sorte de soulagement secret. Le même sentiment qu'Eva et moi éprouvions tous les 2 ou 3 ans quand la rivière qui traverse Redwood débordait, inondant les routes et paralysant les entreprises pendant 1 jour ou 2. Nous savions qu'une crue était fâcheuse et provoquait des ravages. Pourtant, nous ne pouvions nous empêcher d'être saisis d'une étrange exaltation à l'idée que quelque chose hors de notre portée fût suffisamment puissant pour détruire l'inexorabilité de notre routine. En même temps que l'inquiétude et la confusion, est apparu un sentiment d'énergie, de libération. Les anciennes règles avaient été temporairement suspendues, et c'était excitant d'imaginer les changements qui naîtraient inévitablement de ce bouleversement, de réfléchir à tout ce qu'on aurait appris et corrigé quand les choses repartiraient. Alors même que la vie de tout le monde devenait plus instable, la plupart des gens semblaient portés par un nouvel optimisme, partager la sensation que nous étions en train de connaître le pire et que bientôt, quand les choses se seraient arrangées, les problèmes à l'origine de cette pagaille seraient éliminés du système, et l'Amérique et l'avenir se trouveraient en bien meilleure forme qu'ils ne l'avaient jamais été.
Les deux sœurs mettent donc du temps à réaliser que l'ancien monde ne reviendra pas, et elles emploient des mots qui résonnent d'ailleurs dans notre propre contexte. À l'automne, nous en aurions terminé avec les pires de nos privations. Elles sont d'abord assez passives, encore sous le choc de la mort récente de leurs parents. Elles ne cherchent pas vraiment de solution plus durable, elles dépriment et se replient sur leurs trucs perso. Eva passe une grande partie des journées à danser, Nell se met à lire l'encyclopédie dans l'ordre. Elles s'arrangent avec ce qui manque et les stocks assez importants qu'elles ont tout d'abord à leur disposition, toujours dans l'attente que ça va passer.
Nous détestions le thé avant que tout cela n'arrive. Je buvais du chocolat et Eva évitait la caféine. Mais à présent, les sachets de thé éventés de notre mère sont l'une des rares gâteries qui nous apportent un peu de bien-être. Même Eva est prête à rationner le thé. Dans une boîte de chez Fastco, qui contenait autrefois 400 sachets, il n'en reste plus que 9. Mais si on retire la graffe qui ferme le sachet et qu'on tamise le thé dans un bol, on s'aperçoit qu'il ne faut qu'une pincée, juste un peu de poussière de thé, pour transformer l'eau bouillante en un liquide légèrement parfumé dans lequel flotte un soupçon de poudre, et c'est comme une sorte d'alchimie qui civilise l'eau, donne vie aux fantômes, au moins, du thé. Nous arrivons ainsi à faire durer un seul sachet 1 semaine, et peut-être que compter les sachets de thé nous en dit plus que n'importe quel calendrier sur le temps qui passe.
Et même quand Nell se met finalement à réfléchir de manière plus systématique à leur situation et à chercher des solutions, elle ne correspond pas du tout à l'image de l'héroïne post-apocalyptique. On se rend compte alors que malgré le fait que la famille menait une vie un peu hors des sentiers battus, dans une maison au milieu de la forêt, loin de la ville, sans école et avec un petit potager pour le loisir, c'était quand même une vie bien dépendante des produits manufacturés et industriels, et que les deux sœurs n'ont pas vraiment appris les choses utiles à la survie, qu'elles connaissent très peu ce qui existe dans leur environnement, et que la forêt n'était jusque-là qu'un cadre bucolique à leur vie de consommatrice. Les recherches et l'apprentissage que Nell entreprend alors sont décrits d'une manière assez réaliste, comme ça se passerait probablement pour la plupart des personnes qui lisent ce livre.
Ce soir, alors que nous sirotons nos tasses de thé blanc avant de nous coucher, je me suis dit que la forêt avait sûrement plus à nous offrir qu'un après-midi de fraises. Elle doit sûrement regorger de choses à manger. Les Indiens qui vivaient là ont survécu sans les vergers et les potagers. Ils ne se sont nourris que de ce que les bois mettaient à leur disposition. Mais j'ignore par où commencer. J'ai étudié la botanique, je m'y entends en morphologie et physiologie végétale, je sais comment les plantes poussent et comment elles se reproduisent, je sais identifier une cellule végétale au microscope, dresser la liste des réactions chimiques qui provoquent la photosynthèse. Mais j'ignore le nom des fleurs que nous avons déposées sur la tombe de notre père. J'ignore le nom des mauvaises herbes que nous arrachons du potager, ou même quel type de feuilles nous utilisons en guise de papier toilette. Je sais reconnaître le sumac vénéneux, je sais distinguer un sapin d'un séquoia, mais tous les autres noms, latins ou indiens ou usuels, m'échappent. Je suis même loin de deviner quelle plante est comestible ou à quoi d'autre elle peut servir si elle ne l'est pas. Ce buisson, dis-je, cette fleur ou cette mauvaise herbe. Et comment des buissons ou des fleurs ou des mauvaises herbes peuvent-ils nous nourrir, nous vêtir, nous guérir? Comment ai-je pu vivre ici toute ma vie et en savoir si peu?
Elle ne s'en sort pas toujours très bien. Elle ne sait pas vers où se tourner, elle n'a pas forcément des réflexes utiles, comme par exemple remplacer le thé simplement par des tisanes, parce que même ça, ce sont des pratiques qu'il faut apprendre. Il faut dire aussi qu'elle n'a pas grand-chose à sa disposition pour trouver le savoir nécessaire. Elle finit quand même par se rappeler que sa mère s'était procuré un livre sur les plantes quand elle avait vaguement développé le projet d'utiliser des teintures végétales pour les tissages plutôt que des colorations chimiques et toxiques, projet qu'au final, elle n'avait jamais réalisé.
J'ai trouvé les plantes indigènes de la Californie du Nord sur une étagère du haut entre Madame Bovary et un ouvrage sur la guerre d'Espagne. Bien que ma mère ait écrit son nom au verso de la couverture, le dos du livre était intact et ses pages en parfait état, comme si elle n'avait jamais eu l'occasion de le lire avant que le cancer lui vole même son amour de la couleur. J'ai ouvert avec empressement, attiré non pas par une quête de la couleur, mais par l'appel de la nourriture. Ça a été une déception. Je crois qu'inconsciemment, je m'étais attendu à un ami, un guide, une grand-mère, une femme sage qui nous aimait et qui savait notre souffrance, qui sortirait des pages de ce livre et me conduirait dans les bois, s'agenouillant au bord du ruisseau, pour me montrer les herbes, enfonçant son bâton dans la berge pour déterrer des racines, m'apprenant patiemment où chercher, quand récolter et comment préparer les bienfaits de la forêt. Bien sûr, une telle femme n'existe pas, et je suis tombée que sur une suite d'articles avec des noms latins, des descriptions botaniques et de vagues croquis en noir et blanc ou des photos floues. Les plantes indigènes de la Californie du Nord est aussi dense et déroutant que la forêt qu'il est censé décrire. Toute la journée, pendant qu'Eva jardinait, j'ai avancé farouchement dans ma lecture, m'efforçant d'associer les herbes folles des bois avec les photos granuleuses et les dessins inconsistants, m'efforçant de raviver la signification des mots que j'avais autrefois mémorisés, pétiole, ombelle, racème. Je ne me suis jamais sentie aussi perdue. Je vendrai mon âme ce soir pour une heure d'internet. J'ai l'impression d'essayer d'apprendre une langue nouvelle sans l'aide de cassettes ou de livres, une langue que plus personne ne parle, et pour la première fois de ma vie, je me demande si je suis capable de réussir l'examen.
Et c'est là une des forces de ce livre. On n'a pas trop de mal à se retrouver dans la peau de Nell, à se sentir complètement paumée, pas apte à faire face à ce genre de problème. Certainement l'une ou l'autre des lectrices aura quelques savoir-faire utiles pour cultiver des plantes, reconnaître une espèce comestible, fabriquer une bougie, soigner un bobo. Mais dans nos sociétés capitalistes et urbanisées, peu de personnes sauront faire face au manque de ces innombrables choses sur lesquelles nous comptons dans nos vies, comme une évidence. Couplé à l'arrivée absolument pas spectaculaire de l'effondrement, on peut facilement imaginer son arrivée dans nos petits mondes persos à nous et notre désarroi pour y faire face, tellement tout ça ne ressemble pas à un roman d'aventure mais plutôt à un scénario encore plus réaliste aujourd'hui qu'au moment de sa publication, il y a 25 ans.
On est sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 avec Vortex et Rotative, aujourd'hui sur le roman Dans la forêt de Jing Hegland. Un des trucs intéressants aussi, c'est la relation qu'ont les deux sœurs, qui n'est absolument pas enjolivée ou romantisée. Bah, elles se soutiennent mutuellement, partagent beaucoup d'affection, mais parfois elles n'ont pas le même rapport aux choses et elles s'engueulent. Et c'est pas facile de se réconcilier sans personne d'autre à qui parler, dans cette sorte de huis clos. Même si les deux protagonistes sont sœurs, elles ont des rapports très différents à la vie, au savoir, au corps. Mais aussi, l'un des sujets de dispute qui est très thématisé dans le livre, c'est leur rapport différent aux réserves. Faut-il profiter de ce que l'on a maintenant ou bien le garder pour le jour où il y en aura vraiment besoin ?
Mais ce qui promettait de nous sauver hier a tout gâché aujourd'hui, a corrompu l'air même entre ma sœur et moi. Nous avons porté le bidon d'essence dans la maison, l'avons posé sur la table pour en profiter pendant que nous mangeions nos haricots bicolores. Nous étions fiers comme des chercheurs d'or qui venaient de tomber sur le filon mer. Toute l'après-midi, notre joie nous a stimulés. Nous avions de l'essence, de l'essence, de l'essence, et grâce à elle, nos problèmes étaient pour ainsi dire résolus. Jusqu'à ce que nous tentions de nous mettre d'accord sur son utilisation. « Je vais aller remplir le générateur », a dit Eva au début de la soirée, quand notre excitation avait fini par se calmer pour n'être plus qu'une lueur chaude et solide. « Quoi ? Ai-je fait ? Je vais remplir le générateur », a-t-elle répété, la main déjà sur la poignée du bidon. « Maintenant ?»« Bah évidemment maintenant. Si j'attends, il fera trop noir pour y voir quoi que ce soit. »« Mais pourquoi ? Pour notre fête. »« Quelle fête ? On va faire la fête ce soir. On allumera toutes les lumières, on prendra des douches chaudes, on lavera du linge. Et, a-t-elle ajouté en exultant, on mettra de la musique et je danserai. On ne peut pas faire ça, ai-je dit. Pourquoi pas? Je suis sûr que le générateur marche. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'essence. Pourquoi? On doit la garder pour le pick-up, pour ne pas avoir à faire du stop pour aller en ville. Mais ça ne nous intéresse pas d'aller en ville en ce moment, tu te rappelles la dernière fois? Oui, mais tôt ou tard, il faudra qu'on y aille et on aura besoin de l'essence. Bah mais il y a presque 20 litres là-dedans. On en a besoin que de 7 pour aller en ville. Et 7 autres pour revenir. Oui, donc 14, ce qui nous laisse 6 litres pour ce soir. Mais qui sait jusqu'où on devra rouler pour en trouver à nouveau? Et puis, si l'une de nous tombe malade et qu'on a besoin du générateur, ou si on doit en utiliser pour la tronçonneuse ou autre chose, on pourrait peut-être même s'en servir comme monnaie d'échange. On ne peut pas se permettre de tout dépenser. On ne dépensera pas tout, juste assez pour la musique, ce soir, c'est tout. Ce ne sera pas perdu. Écoute, Eva, je suis désolée, mais on doit garder cette essence pour une urgence. Et si c'était une urgence maintenant? Une urgence? Ai-je répété, ahuri. Elle a répondu d'une voix virulente et désespérée à la fois. J'ai besoin de danser, Nell. Je dois danser sur de la musique, juste quelques minutes, pour me donner du courage. J'ai regardé ses mains, ses longs doigts qui serraient la poignée du bidon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai revu les mains glaciales de notre mère, tenant délicatement ses bulbes de tulipes, et pendant une seconde, j'ai eu envie de dire oui à l'idée folle de ma sœur. Mais j'ai ensuite revécu ce moment dans la forêt, quand mon père se vidait de son sang et je me suis souvenu qu'il n'y avait plus d'essence dans le pick-up. « Je veux que tu danses, Eva. Tu le sais bien. Mais ne comprends-tu pas que l'essence est notre assurance sur la vie ?»« Notre assurance sur la vie ?»« Oui. Notre ?» La moitié est à moi, a-t-elle dit. Bien sûr, tu as la moitié de tout, tu le sais. Et si j'utilisais ma part? Il n'en restera pas assez pour que l'essence nous serve à quoi que ce soit. On doit tout garder, pour le jour où on en aura vraiment besoin. J'ai attendu son argument suivant, mais son visage s'est éteint, puis s'est fermé. Il sera peut-être trop tard alors, a-t-elle dit, et elle est sortie de la pièce, m'a laissé debout, seule à côté du bidon sale, m'a laissé me détester, parce que j'avais dit non. Parce que j'avais raison.
Les deux sœurs sont donc très différentes, mais ces deux personnages ne sont pas pour autant stéréotypés. Eva, en tant que danseuse, est très ancrée dans son corps, et Nell, intellectuelle, est très liée au monde des idées. On pourrait imaginer que Nell, en tant qu'intellectuelle, serait un peu à la ramasse sur les questions matérielles, mais Jean Hegland a su construire des personnages complexes, autant dans leurs relations que dans leur caractère ou leur position individuelle.
La question que je pose sans fin à mon reflet, c'est « Qui es-tu ?» Mais cela ne viendrait jamais à l'esprit d'Eva de se demander qui elle est. Elle se connaît, jusque dans les moindres os de son corps, les moindres cellules, et sa beauté n'est pas un ornement, c'est l'élément dans lequel elle vit. Malgré son habileté avec le feu, Eva me fait toujours penser à l'eau. Elle est gracieuse et vive comme le ruisseau de l'autre côté de notre clairière. Comme lui, elle semble satisfaite de vivre une partie de sa vie sous terre, certaine, mais maintenant, d'aller quelque part. Quand elle danse, ça se voit. Elle est sûre d'elle, si débordante de vie qu'elle anime quiconque la regarde. Quand elle ne danse pas, elle est silencieuse, calme, un peu rêveuse, comme si danser, c'était vivre pour elle. Tant qu'elle peut souffrir et exulter dans sa danse, elle n'a pas besoin de souffrir ni d'exulter lorsqu'elle se contente de laisser les jours s'écouler. Je suis celle qui est d'humeur revêche, qui pose des questions agressives. Je suis celle qui est mal dans sa peau, qui est incapable de déchiffrer son propre visage. Je suis celle qui se méfie de ce qui va arriver, qui doit se regarder en face, nuit après nuit, quand Eva est déjà endormie. Quand on lit les critiques que Dans la forêt a reçues, on trouve souvent une sorte de célébration de la nature, une opposition de la nature bienfaitrice aux humains et leur culture destructrice, ou d'autres choses cherchant des contrastes simplistes, la pire étant certainement la mise en avant d'un « féminin » que je ne peux que mettre entre guillemets, qui serait plus respectueux ou plus proche de la nature. Comme je suis assez méfiante vis-à-vis de ces visions trop essentialisantes à mon goût, et comme je trouve qu'on peut apprécier ce roman sans avoir recours à ces oppositions basées sur des clichés, j'ai voulu savoir comment Jean Haglund se positionnait par rapport à tout ça, et j'ai lu pas mal d'interviews qu'elle a données. Et s'il est vrai qu'elle est certainement animée d'une grande passion pour la forêt, elle explique bien qu'elle a voulu la montrer à la fois comme l'espace dangereux qu'elle peut être, mais aussi lui donner un rôle de protectrice et nourrice où les deux sœurs peuvent trouver refuge. Il n'est donc pas question ici d'une nature qui représenterait le bien absolu, tout comme la culture humaine n'est pas mauvaise par essence. Interrogée par un journaliste sur l'opposition nature-culture, elle répond
« Pour moi, les valeurs liées à la nature et à la préservation du monde sauvage sont évidemment très importantes, mais aussi celles liées à la culture humaine. Et je pense que ce sont deux choses qui vont très bien ensemble, qui sont tout à fait complémentaires. » Ce qui ne fonctionne pas, c'est une dépendance trop forte aux technologies et au capitalisme.
Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode de Vortex et Rotative. Le roman Dans la forêt a trouvé une place dans notre émission parce qu'on peut le classer sans problème parmi la littérature d'anticipation post-apocalyptique et dystopique. Pourtant, cette classification ne rend pas compte de tout ce qu'on peut trouver dans le récit, qui peut aussi être qualifié de récit initiatique, de conte ou encore de fable écologique. En 2019, dans une interview avec la revue Époque, Jean Haglund en parle ainsi.
Mon sujet n'était pas tant la fin du monde que l'histoire de deux très jeunes filles au milieu de la forêt. Ce qu'elles allaient apprendre, les défis qu'elles allaient devoir affronter par le simple fait de se retrouver coupées de tout. C'est d'abord cela qui m'intéressait. J'ai dû trouver une raison qui puisse expliquer qu'elles soient ainsi coupées de tout et qui m'autorisait à me débarrasser du monde. Cette nécessité fut une chance, parce que cela m'a obligée à réfléchir en profondeur à notre situation actuelle, à ce qui est en train de nous arriver. Dans la forêt est souvent rangée dans le rayon des fictions post-apocalyptiques, voire dans le rayon des dystopies. Et je dois régulièrement insister sur le fait que ce n'est pas une dystopie, que c'est à mon sens un livre d'espoir. Malgré ce rangement des librairies, il me semble que les lecteurs se retrouvent peu à peu plongés dans la forêt avec les deux jeunes filles et finissent par lire l'histoire que j'ai écrite.
Le roman Dans la forêt de Jean Haglund a été publié initialement en 1996, mais la version française n'a été éditée qu'en 2017 par les éditions Gail Master.
Pour le montage, on a utilisé cette fois-ci des bouts de musique du groupe Esmerine.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. sur Radio Dragon et Campus Grenoble.